Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, nous renouons avec les thèmes de ce séminaire ou de ce cours. Je rappelle donc qu'il y aura 2 semaines d'interruption et que nous reprendrons ici le cours le jeudi 20 novembre et qu'ensuite il y aura une série presque régulière, 27, puis 11 et 18 décembre. Et par ailleurs, j'indique aux étudiants qui peuvent être intéressés que le séminaire commencera cet après-midi en salle 4, si je me souviens bien, entre 16h et 18h. Et c'est un séminaire qui est à la fois un séminaire du collège et avec ouvert aux étudiants des universités, particulièrement de l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, vous vous souvenez peut-être que la fois dernière, j'ai essayé de renouer les fils interrompus pendant la période du printemps et de l'été avec la recherche qui sert de fondement à ce cours et qui est une recherche sur la pièce perdue intitulée Cardenio, sans doute écrite par Fletcher et Shakespeare, représentée en 1613. Et j'avais conclu sur cette tension, sur laquelle nous reviendrons peut-être dans d'autres séances, entre d'un côté la fascination pour un texte qui n'existe pas et qui pourtant, parce qu'il est assigné à Shakespeare, a pu mobiliser l'attention à la fois des critiques littéraires, des directeurs de théâtre et donc du coup de la présence de ce texte aussi chez les romanciers. Et ces représentations à travers les différentes formes par lesquelles on peut substituer un texte représentable à une œuvre disparue, et de l'autre côté montrer que cette malléabilité textuelle qui, lorsque le texte de référence n'existe pas, peut être quasi infini, se trouvait néanmoins réduite, contrainte par la figure de l'auteur, par le fait que si cette pièce perdue n'avait pas été, à partir du milieu du XVIIe siècle, assignée à Shakespeare, il est tout à fait probable que personne ne l'aurait jamais écrite et que ce cours, comme je le disais, n'existerait pas. Donc, aujourd'hui, pour partir à nouveau en quête de ce Cardenio perdu de 1613, je vais entrer dans une analyse de ce qui en est la seule trace accessible, la seule archive possible, c'est-à-dire cette pièce de Lewis Theobald qui a pour titre Double Falsehood. Je peux écrire ça au tableau pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, d'autant qu'il y a une petite querelle sur la manière de prononcer Theobald depuis Pope, qui était un adversaire acharné, on verra pourquoi, de Theobald, et qu'il a ridiculisé dans son poème La Dunciade. Il écrivait le nom propre comme s'il devait se prononcer Thibald. Mais rien n'indique que nécessairement Theobald lui-même prononçait son nom de cette façon. Et la pièce dont je parle donc a pour titre Double Falsehood, et sans E, après le S, or the distressed lovers. J'avais traduit ça à la Marivaux, la double imposture ou les amants affligés, et qui fait référence à la double trahison que l'on rencontre dans l'histoire de Cardenio dans Cervantes et qu'on rencontre dans le texte de Theobald, c'est-à-dire la trahison de Enriquez, le Fernando de Cervantes, par rapport à la femme qu'il a séduite, à qui il a promis le mariage et qu'il a abandonnée, Dorothea, qui dans la pièce s'appelle Violante, et d'autre part la trahison par rapport vis-à-vis de son ami Giulio, le Cardenio de Cervantes, dont Enriquez Fernando a séduit la promise Leonora dans la pièce, Lucinda, chez Cervantes. Et de là, cette double trahison, cette double imposture qui forme à la fois le fondement de l'intrigue chez Cervantes, de la nouvelle de Cardenio, et qui se retrouve comme la trame fondamentale de la pièce de Lewis Theobald. Cette pièce a été représentée en 1727 est publiée en 1728 et donc elle est tout à fait accessible, même s'il n'y en a que, pas d'édition moderne. Il y a une édition facsimilée du texte de 1728 et puis une édition accessible sur le web qui a été mise récemment dans cette forme par un collègue canadien. Alors, comme souvent, on peut partir pour entrer dans un texte ancien de la page de titre. Et je pense que la critique littéraire ou l'histoire culturelle ont trop souvent négligé l'analyse extrêmement dense et riche que l'on peut faire de toutes les indications qui se trouvent sur la page de titre. La première indication, c'est qu'avec, sous le titre « Double Falsehood or the Distressed Lovers », il y a simplement « a play ». En très grosses lettres majuscules, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de caractérisation du genre, comme il était de coutume dans d'autres pièces de la seconde moitié du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, ou comme il était de coutume dans les pièces élisabéthaines et il y a des années 1640. Ici, l'oscillation entre les aspects tragiques de la pièce et d'autre part le fait qu'elle se termine bien comme une comédie aurait pu la faire baptiser dans d'autres moments historiques. Je l'évoquais la semaine dernière comme une tragicomédie, où les personnages s'approchent de la mort, mais personne finalement ne décède. Mais il a été choisi plutôt « a play », d'une manière générique, sans une caractérisation de genre. Ce qui est ensuite donné sur la page de titre, c'est le lieu où la pièce a été ou est encore, au moment de la publication du texte, représentée « as it is acted at the Theatre Royal in Drury Lane ». Ici, ce théâtre royal, Theatre Royal à Drury Lane, est l'un des théâtres qui a été réouvert avec la Restauration, puisque vous vous souvenez qu'en 1642, les théâtres avaient été fermés par la Révolution anglaise et que ce n'est qu'à partir de 1660 que de nouveau les théâtres sont ouverts, ceci allant de pair avec la Restauration monarchique. Et parmi les salles ouvertes, il y a celle-ci, le Theatre Royal, qui a été profondément transformée en 1690 et qui, puis, depuis 1709, est dirigée par un triumvirat d'acteurs dont le plus important est Cole Cibber, C-I-B-E-R. Et qui est le théâtre qui est en compétition avec une autre des salles réouvertes à Londres avec la Restauration, qui est la salle de Lincoln Inn Fields. Et ce qui est important, c'est qu'on est là face à une nouvelle pratique du théâtre par rapport à ce qu'il était avant 1642. D'abord, il ne s'agit plus de ces amphithéâtres ouverts comme le Globe et tous les autres théâtres publics ouverts qui se rencontraient sur cette rive-là de la Tamise. Il s'agit de salles fermées avec un dispositif qui est celui du théâtre à l'italienne. Et d'autre part, l'autre grande innovation a été le fait qu'à partir de la Restauration, les rôles de femmes sont tenus par des femmes. Et de là, une émergence de la figure des comédiennes et des actrices qui, à la fois, peuvent dominer l'intérêt des spectateurs et en même temps peuvent entraîner, on le verra, des réinterprétations des textes de façon à ce que ces rôles de femmes joués par des femmes prennent une importance qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant dans certaines des pièces. Dans le cas de la compagnie qui joue au Theatre Royal à Drury Lane, les figures dominantes sont un couple d'acteurs et actrices, le couple Booth, et qui d'ailleurs était distribué dans distribution de The Double Falsehood, puisque Monsieur Booth devait jouer le rôle de Julio. En fait, il a été malade le soir de la première, il n'a donc pris le rôle qu'au cours des représentations qui ont suivi, et Mrs. Booth dans le rôle de Violante, donc c'est la Dorothea de Cervantes, la femme de fille d'un paysan riche abandonné après avoir été séduite. Il y a donc un nouveau dispositif théâtral qui reçoit les pièces et qui va imposer aussi un nouveau répertoire, mais qui, pour commencer, a puisé très largement, j'y reviendrai peut-être d'une façon un peu rétrospective par rapport à cette présentation aujourd'hui de la seule trace disponible, si c'en est bien une, bien une de Cardenio de 1613 sur ce répertoire construit à partir de l'appropriation ou de la réécriture de très nombreuses pièces qui avaient été écrites et représentées entre la fin du XVIe siècle et la Révolution. La date est donnée comme il se doit sur la page de titre, l'édition est datée de 1728 et la pièce est donnée « as it is acted », comme elle est représentée. On peut supposer ici une édition qui accompagnait la saison théâtrale de 1727-1728 et qui pouvait être liée à des représentations de la pièce. La première a été donnée le 13 décembre 1727, et la pièce a eu un certain succès indéniable, puisque 10 représentations en ont été faites entre cette date du 13 décembre 1727 et le 9 janvier 1728. Et 3 de ces représentations ont été faites au bénéfice de Théobald, comme c'était une règle, les recettes de certaines des représentations pouvaient être assignées soit à l'auteur, ce qui est une manière finalement de paiement de la pièce, soit à certains des acteurs. Et la pièce est reprise 3 fois pendant la saison de 1728, à des dates plus tardives, au printemps, et c'est peut-être là que se lie l'édition du texte avec des représentations sur la scène. Ensuite, elle va s'effacer du répertoire, mais rester toujours présente. 2 représentations en 1740, une en 1741, 2 en 1767. Et là, la pièce a migré dans une troisième salle qui est le Covent Garden. Et puis, finalement, la dernière représentation avant une donnée en 1793 à Londres est en 1770 avec un retour, enfin 2 représentations en 1770 avec un retour à Drury Lane, la salle du Theatre Royal. Ce qui est très important, c'est que l'impact de cette pièce, qui a rencontré son public pendant la saison 1727-1728, est liée à la construction préalable d'un horizon d'attente. C'est-à-dire qu'avant même la première, la pièce a déjà été commentée dans un certain nombre de journaux et elle est déjà annoncée comme un événement. Et pourquoi est-ce un événement ? Parce qu'elle est présentée, ce qui crée cet horizon d'attente, comme une pièce perdue mais retrouvée de Shakespeare. Dès le 10 mai 1727, un journal qui est très proche et favorable au gouvernement, qui est celui du parti Whig, celui de Walpole, et ce journal a pour titre le London Journal, annonce ce que Théobald est en train de faire et annonce le projet théâtral qui est le sien. Je traduis « Combien longuement et combien ardemment les fils de la poésie ont désiré qu'un nouveau Shakespeare puisse apparaître, possédant la même force, le même génie que le premier, et qui serait capable de libérer le théâtre des petites folies qui aujourd'hui l'ont accaparé et de restaurer l'ancien et viril goût anglais, the English taste. Nos voeux sont plus que comblés. Le bon vieux maître du théâtre anglais, the English drama, est par une sorte de miracle rappelé depuis la tombe et nous est donné une autre fois. » Donc on voit ce texte que je vais ce type de texte sera aussi l'objet d'autres commentaires, puisque on voit qu'ici la redécouverte d'une pièce perdue de Shakespeare qui sort de manière miraculeuse de sa tombe et en l'absence d'un nouveau Shakespeare va occuper l'espace de cette réaffirmation contre des modes théâtrales qui ont envahi au désespoir d'un certain nombre de critiques les scènes anglaises. Les petites folies font allusion à la fois au répertoire des opéras, opéras en un acte, opéras en forme de masque, et on verra aussi, font allusion au répertoire des mélodrames. Et contre ces deux formes considérées comme abattardies, dégénérées du théâtre, le retour à ce ancien et viril, manly, goût anglais est assuré par Shakespeare. On y voit donc à la fois une affirmation de nationalisme contre, au moins pour l'opéra, un genre venu d'ailleurs, et d'autre part, on y voit une affirmation d'une identité nationale qui s'identifie à travers un goût robuste, viril, ancien, et qui s'exprime de la manière la plus paroxystique à travers les œuvres de Shakespeare. Et donc là, un horizon d'attente qui est créé par rapport à cette redécouverte de cette pièce et d'un auteur rappelé de sa tombe. Le 4 décembre 1727, je rappelle, la première est le 13 décembre, donc il y a déjà des discours sur la pièce avant même sa représentation. Le Daily Post et le Evening Journal indiquent une chose qui était inattendue, inaccoutumée, indique que Theobald a obtenu un privilège royal, a royal privilege and license, pour la publication de sa pièce. C'est un fait tout à fait exceptionnel. Je l'ai dit plus quelques fois, le système de publication qui s'est établi en Angleterre depuis 1557, c'est-à-dire depuis l'incorporation de la compagnie ou la corporation des libraires et imprimeurs, sous le nom de Stationers' Company, est un système de publication qui a délégué à la corporation, à la Stationers' Company, les processus de la censure et, d'autre part, l'établissement des règles sur les publications, par exemple, writing copy, devenu copyright au début du XVIIIe siècle, qui assure au libraire ou à l'imprimeur, au stationnaire, qui a fait enregistrer une pièce, le monopole, la propriété sur cette pièce ou sur ce texte, et un monopole que les libraires et imprimeurs considéraient comme sans limite, comme illimité. Et donc, par rapport à ce système entièrement situé à l'intérieur de la corporation, existait, mais de manière marginale, un système de publication qui était plus proche du système français ou castillan ou portugais, c'est-à-dire le privilège royal, qui donnait non seulement un monopole sur un texte qui avait reçu ce privilège pour son auteur ou pour le libraire ou l'imprimeur à qui il l'avait cédé, mais qui marquait une sorte de poids d'authentification par le roi, puisque ce privilège était au nom du roi, et souvent dans les éditions imprimées, s'accompagnait du sceau royal. Donc, puisqu'il était publié dans l'édition, comme il était de règle en France, et encore plus, enfin, de même manière en Castille ou en Aragon. Donc il y avait là un fait étonnant dans la mesure où, en général, ce statut particulier de publication, c'est-à-dire autorisation, license et privilège, c'est-à-dire monopole, ne s'attachait pas à des genres aussi subalternes que les pièces de théâtre. Et que donc le fait que Theobald a obtenu un privilège royal pour une œuvre qui normalement n'aurait pas dû, puisque presque, puisqu'il n'y a pas d'autre exemple dans cette période de temps de privilège royal donné à une pièce de théâtre, ne pouvait qu'attirer l'attention et ne pouvait que créer un deuxième élément dans l'attente des spectateurs. Le 12 décembre, le jour, la veille de la représentation, le même Daily Post annonce la représentation, donne la distribution, en particulier avec les noms de Mr. and Mrs. Booth, dans les rôles de Violante et de Giulio, et comme je le disais, malheureusement, le premier soir, Booth était malade. Et le 14, le Evening Journal rend compte de cette première, il rend compte du fait que Williams, un autre acteur, a remplacé très bien d'ailleurs Booth, il rend compte du talent des comédiens qui ont déclamé un prologue et un épilogue, et la pièce est ensuite présentée dans ce compte-rendu donc du 14, au lendemain de la représentation de la soirée du 13, comme la nuit dernière a été représentée une pièce originale de William Shakespeare à Drury Lane, où le public était très nombreux et a suivi avec la plus grande attention toute la pièce. C'est dans le compte-rendu du Evening Journal, finalement, reprendre la troisième indication que l'on rencontre sur la page de titre et qui est cette allégation, le titre, A Play As It Is Acted, et entre deux filets continus, Written Originally by W. Shakespeare, écrite originellement par William Shakespeare, and now revised and adapted to the stage, et maintenant révisé et adapté pour le théâtre ou pour la scène, by Mr. Theobald, the author of Shakespeare Restored. Et Shakespeare Restored, un titre d'un livre donné en italique. On voit donc que cette double dédoublement de l'auteur. D'un côté, la pièce est originairement une pièce de William Shakespeare, mais telle qu'elle est représentée, elle est le résultat de la révision et de l'adaptation par Lewis Theobald, est reprise est reprise à la fois dans l'édition et dans les commentaires ou les comptes rendus sur la pièce. Donc l'autorité première de Shakespeare comme auteur de la pièce est reprise à la fois dans l'affirmation de l'édition imprimée et comme étant la réalité de cette pièce par les journaux du temps. Ce qui est intéressant est que sur cette page de titre, Mr. Theobald se présente, donne une présentation de lui-même et retient un élément, l'auteur du Shakespeare restauré. Le titre long de ce texte qui avait été publié en 1726, donc une année avant l'écriture de la pièce, est intéressant. Alors, Shakespeare Restored, or A Specimen of the Many Errors as Well Committed. C'est comme au théâtre, on devrait annoncer au début que les portables doivent être fermés. A Specimen of the Many Errors, un exemple des nombreuses erreurs, as well committed as unamended, aussi bien commises que non émendées, non corrigées, by Mr. Pope in his late edition of the poet, par M. Pope dans la dernière édition, dans son édition récente du poète. Et le texte est ensuite donc présenté comme « Design not only to correct the said edition », le texte est destiné non seulement à corriger la dite édition, il s'agit de l'édition des œuvres de Shakespeare par Pope qui avait été publiée en 1725, mais aussi « to restore the true reading of Shakespeare in all the editions ever yet published », mais pour restaurer l'authentique texte, la true reading de Shakespeare dans toutes les éditions qui ont déjà été publiées. Alors, il y a là un élément sur lequel je voudrais focaliser un peu l'attention. Au point de départ, donc, évidemment, cette critique que fait Theobald de la dernière édition disponible des œuvres de Shakespeare. Il faut rappeler ici qu'à partir des dernières éditions antérieures à ces textes de Theobald sur Shakespeare Restored était donc celle de 1725 de Pope en 6 volumes qui avait fait suite à une édition de 1709 de Nicholas Rowe en 6 volumes elle aussi, les deux ayant été publiés par le libraire Thomson. Et ces deux éditions se référaient au moment où la famille Thomson, il y a le père et le fils, avaient acquis le writing copy sur les œuvres de Shakespeare et avaient été les éditeurs du quatrième folio, celui de 1685. Et donc, il y a une série d'éditions qui avaient déjà été préalables à celle de Pope, qui devient l'objet de la critique de Theobald, qui prétend à la fois la corriger et d'autre part de proposer l'authentique texte shakespearien, the true reading, mais évidemment sous la forme d'un spécimen, d'une série d'exemples. Alors pourquoi cette controverse autour de l'édition des œuvres de Shakespeare Et pourquoi ce texte de Théobald, qui est celui qu'il revendique comme une identité d'auteur sur la page de titre de la Double Falsehood? La première raison est toute personnelle, c'est-à-dire qu'avec ce texte de 1726, Shakespeare Restored, Théobald s'était affirmé dans sa compétence par rapport au texte de Shakespeare, compétence à la fois critique et éditoriale, et donc, d'une certaine manière, il prenait rang auprès de Tonson pour une nouvelle édition de Shakespeare. Et de fait, ce calcul ou cette stratégie aboutira, puisqu'en 1733, j'y reviendrai, Théobald va être l'éditeur d'un nouveau série de 7 volumes intitulé « The Works of Shakespeare ». Donc il y avait donc un motif très personnel de cet auteur, entre guillemets, sur lequel je reviendrai, parce que c'est un cas très topique, très intéressant, de comment on peut faire une carrière d'homme de lettres à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Mais au-delà, il y a deux enjeux infiniment plus importants. Le premier est un enjeu philologique et critique, dans la mesure où s'opposent ici deux conceptions de ce que doit être l'édition d'un texte. Il y a la conception la plus classique, qui est celle de Pope, et qui est une conception que l'on pourrait dire esthétique et littéraire. Même si dans son édition de 1725, qui prenait comme texte de base le quatrième folio de 1685, qui appartenait au même libraire que Tonson, et même si dans cette édition, Pope revendique le fait qu'il a essayé, qu'il a demandé même par les journaux, que l'on retrouve des éditions in quarto des pièces de Shakespeare, de façon à ne pas dépendre uniquement du texte du dernier folio, mais de revenir aux textes les plus anciens, aux éditions antérieures à la Révolution, même s'il y a donc ce souci, qu'on pourrait dire bibliographique, de Pope, qui avait rassemblé une trentaine d'éditions in quarto antérieures à la Révolution, antérieures à 1642, ce qui domine son édition, c'est une perspective que l'on peut dire poétique et esthétique. De deux manières, d'un côté, parce que dans l'édition de Pope, les passages qu'il considérait comme indignes de l'idée qu'il se fait de Shakespeare étaient soit omis, soit repoussés, bottomed, mis en note. C'est-à-dire que tous les passages vulgaires, grossiers, pornographiques, qui, comme vous le savez, ne sont pas peu nombreux dans les textes shakespeariens, étaient considérés par Pope comme nécessairement des corruptions du texte de Shakespeare introduite par les acteurs. À partir de ce moment-là, que ce texte n'était plus considéré comme légitimement shakespearien, à partir d'un critère de goût, et était soit expulsé de l'édition, soit donné uniquement en note. Il y a une sorte de dégradation du texte, à la fois la dégradation par les corruptions introduites par les acteurs, et d'autre part le fait que ce texte est dégradé par Pope, puisqu'il le extrait du texte qu'il considère comme proprement shakespearien. Donc des coupures, sans même mentionner que la coupure existe, et d'autre part, ces renvois en bas de page. Un deuxième trait de cette critique littéraire et esthétique de Pope, c'est le fait qu'il corrigeait les anachronismes. Et tout ce qui était considéré comme anachronique, par exemple dans Julius Caesar, il y a les personnages qui portent des hats, des chapeaux, et il le transformait en cap, qui paraissait plus conforme avec le monde romain. Donc il y a un souci de correction du texte pour en exclure ce qui est des anachronismes patents. Et le troisième élément qui va donner lieu évidemment à une très grande production au XVIIIe siècle, c'est le repérage dans le texte des plus beaux passages. Le genre qui s'introduit là, c'est le genre des beauties of Shakespeare. Et du coup, il indiquait avec des étoiles, des vers ou des passages qui lui paraissaient particulièrement sublimes, ou encore avec des guillemets, qui est la reprise de la vieille utilisation typographique des guillemets inversés au début de ligne, qui indiquait les commonplaces, les lieux communs, les vérités universelles qu'on rencontrait dans le texte. Pour Pope, il leur donne à ces guillemets inversés un statut plus esthétique, c'est-à-dire d'indiquer au lecteur qu'il efface là, devant cette ligne, devant ce vers, une de ces beautés de Shakespeare. Donc on voit que c'est une pratique d'édition, même si elle revendique une recherche bibliographique qui est entièrement dominée par des critères esthétiques qui sont ceux du goût poétique ou de l'exigence morale, et dominée aussi par l'idée que Pope se fait de la grandeur de Shakespeare et donc donne un texte à la limite plus shakespearien que celui du Shakespeare transmis par les éditions imprimées. Le dernier élément qu'il faut souligner dans l'édition de Pope, mais seulement dans sa réédition de 1728, donc postérieure à la critique de Théobald, c'est le fait qu'il est le premier à exclure du corpus shakespearien en les donnant à part les sept pièces qui avaient été ajoutées dans le troisième folio, celui de 1664-65, et qui ont progressivement été exclues, sauf Périclès, du corpus shakespearien. Donc on a une critique humaniste, littéraire, esthétique, poétique, fondée sur un critère du goût. Et face à cette critique héritée, Théobald, lui, affirme une autre manière, une autre perspective sur l'édition des textes, c'est-à-dire une conception philologique, scientifique, érudite de l'édition, qui suppose la collation des éditions, qui suppose aussi la comparaison des différents états du même, entre guillemets, texte, dans différentes éditions, et qui propose aussi des conjectures qui sont fondées sur une connaissance historique de la langue. Et c'est là que se joue une opposition extrêmement forte entre l'émergence avec Théobald de ce type de critique érudite, savante et philologique, opposée à une critique totalement dominée par les critères du goût. Alors le point de départ du texte, qui est un texte très, très, très intéressant, est double. Tout d'abord, Théobald revient sur les raisons pour lesquelles le texte shakespearien a été corrompu. Et pour lui, il y en a deux évidentes. La première, c'est l'absence de tout manuscrit, donc ce qui rend très difficile d'établir « the author's meaning », le sens voulu par l'auteur, puisque ce manuscrit autographe n'existe pas. Et la deuxième, c'est la pratique de l'édition qui a fait que les textes fautifs ont été reproduits d'édition en édition par des éditeurs qui n'étaient pas très disposés à investir de l'argent pour une réédition d'un texte. Donc la chaîne des corruptions s'est perpétuée et en même temps sans possibilité de revenir à un texte originel. C'est la première raison qui explique son projet et qui est d'essayer de corriger ces corruptions introduites par la mécanique éditoriale et par l'absence de manuscrits. Le deuxième point de départ, c'est sa déception, feinte ou sincère, par rapport à l'édition de Pope, qu'il loue comme un grand poète, pour lequel il dit professer la plus grande admiration, mais qui ne s'est pas livré dans son édition à un véritable travail d'édition. Et Pope, d'ailleurs, lui-même le reconnaît. Théobald cite un passage de la préface de l'édition de Pope, dans lequel Pope déclare une religieuse aversion de toute innovation. Donc une limite qu'il se donne à lui-même par rapport à toute mutation ou modification trop importante du texte tel qu'il a été hérité. Et dans cette même préface, ce n'est pas un texte cité par Théobald, mais il va de pair avec cette aversion religieuse pour l'innovation, c'est le fait que Pope dit avoir s'être épargné le « dull duty », l'ennuyeux, l'assommant devoir d'un éditeur. Donc c'est une édition qui clame, au nom de ce critère du jugement esthétique, de ne pas être entré dans les techniques les plus austères, les plus arides, les plus ennuyeuses de la philologie. De là, pour Théobald, la légitimité et la nécessité d'entreprendre une nouvelle édition du texte shakespearien. Légitimité parce qu'un argument pouvait être opposé à ce travail. C'était l'idée qu'en cette période du début du XVIIIe siècle, c'est le premier moment d'une véritable canonisation, mais presque dans un sens religieux, de Shakespeare. Le plus souvent, les adjectifs qui lui sont attribués sont immortel, divin. Et donc, il s'inscrit presque automatiquement une comparaison entre le texte sacré, la Bible, et le texte shakespearien. Et pour Théobald, même si, ou parce qu'il a cette admiration pour Shakespeare, pour autant, on ne peut pas considérer que cette sacralisation du texte doive empêcher le travail de type philologique, la critique savante. Pas plus d'ailleurs que la véritable sacralité du Nouveau Testament a empêché ce type de travail philologique entamé par un auteur qu'il respecte, Bentley, et qui avait entrepris une analyse des variantes ou des milliers de variations du texte du Nouveau Testament dans ses différents états textuels. Donc même pour le texte le plus sacré, il n'y a pas un empêchement à une approche qui serait une approche qui peut reconstituer à travers la comparaison et la collation des variantes le texte le plus original ou authentique possible. C'est donc une manière de légitimer à partir de la critique biblique, la critique de l'œuvre shakespearienne, puisque même si on considère que Shakespeare participe du corpus des sacred writings, ceux-ci eux-mêmes ont été l'objet d'un travail de collation, comparaison et d'établissement du texte le plus authentique. Et la nécessité, elle est la suivante. Je cite en traduisant Théobald, « Quand un gentleman et un savant, un scholar, devient l'éditeur d'un livre, il entre dans la critique de son auteur. Et quand il trouve le texte, en fait le mot de reading, est, à mon avis, doit être traduit par texte, évidemment, quand il trouve le texte suspect, manifestement corrompu, avec un sens défaillant et inintelligible, il doit exercer tout le pouvoir et la faculté de son esprit pour réparer un tel défaut, pour éclairer et restaurer le sens du passage, et par une correction raisonnable, reasonable correction, rendre satisfaisant et accorder au contexte ce qui auparavant était si absurde, incompréhensible et obscur. » Et ici, il y a finalement le pilier de la pratique critique de Théobald, c'est-à-dire de considérer à la fois une distinction possible entre l'édition et la critique, mais en même temps de considérer que éditer un texte, c'est faire œuvre de critique, puisque c'est rechercher ou attribuer du sens à des passages qui, littéralement, sont incompréhensibles, absurdes ou obscurs. Et à partir de ce moment-là, l'éditeur d'un texte doit se doter de tous les instruments de la critique, et comme vous le voyez, l'un lié avec la possibilité d'un sens intelligible et l'autre avec une contextualisation accordée au contexte. du texte de façon à en restaurer la signification. Et de là, le Shakespeare Restored. Dans cette préface, enfin dans la préface à son livre de 1726, Shakespeare Restored, Théobald insiste sur le fait qu'il n'y a pas là un exercice de pédanterie, d'érudition vaine, et que ce travail qui vise à donner un texte à la fois historiquement possible et intelligible est un travail qui n'est en rien contradictoire avec la lecture de plaisir du texte shakespearien. Il fait allusion à un phénomène important qui est que Shakespeare est sans doute le poète le plus lu par les lectrices. Et c'est dans ces années-là, 1720-1730, qu'il y a un public féminin shakespearien qui va d'ailleurs donner naissance à des clubs ou des associations. Et d'autre part, cette perspective érudite sur l'édition des textes n'est pas contradictoire non plus avec l'exercice de la critique esthétique, tels que peuvent la faire les gens de lettres ou que les hommes cultivés. Au contraire, établir ce texte intelligible et historiquement possible est la condition de possibilité du plaisir d'une lecture qui n'est pas heurtée par l'absurdité ou l'obscurité de certains passages, et d'autre part, est une condition de possibilité d'un travail critique qui s'empare pour la critique du texte tel qu'il est au plus près de l'intention auctoriale, jamais totalement saisissable en l'absence de manuscrits. Se trouve ainsi justifié, je cite en traduisant, l'entreprise qui restaure la signification de passages dans lesquels, du fait de la corruption des éditions successives, aucun sens n'a jusqu'ici été trouvé, ou qui rétablit au mieux de mon pouvoir le texte authentique du poète, the poet's true text, là où je suspecte qu'il a été trahi du fait des erreurs de la presse ou des manuscrits. Et c'est un autre point important, la compétence que réclame Théobald se fondait à la fois sur le fait qu'il a une maîtrise des classiques, qu'il a suivi des études de grec et latin sans jamais aller à l'université, mais dans une des plus importantes grammar school de Ipswich, et d'autre part sur le fait qu'il avait collaboré au théâtre et que donc il connaissait les manuscrits de théâtre de son temps, mais qu'en même temps pouvait en inférer un certain nombre de conclusions sur les causes possibles des erreurs dans de ce que pouvaient être les manuscrits, que soit autographes des auteurs, soit utilisés par les compagnies au XVIe et XVIIe siècle. Il y a donc un savoir classique et un savoir technique qui sont les deux fondements de la pratique éditoriale et critique de Théobald. Alors, dans le texte Shakespeare Restored, qui est un spécimen, c'est-à-dire une série d'exemples, il développe cette critique en proposant 97 corrections à l'édition de Hamlet telle qu'elle se rencontre dans les Works of Shakespeare de Pope en 1725. Et il le dit non pas parce que c'est la pièce où il y a le plus d'erreurs, mais parce que c'est la pièce peut-être la mieux connue et l'une des pièces que le public préfère de notre auteur. Et aussi parce que Théobald en possédait 7 éditions, donc son travail de correction ou d'émendation se fonde sur la collation des différentes Hamlet dans 2 folios, celui de 1632 qui est le second et celui de 1685 qui est le quatrième, une édition quarto de 1637, la dernière avant la Révolution, la fermeture des théâtres, 2 éditions du Shakespeare de Rove, c'est-à-dire cette édition de Thomson, enfin publiée par Thomson et qui est celle de 1709, et qui avait été réédité en 1714, et une édition du XVIIIe siècle de Hughes, et finalement l'édition de Pope de 1725. Donc c'est ce travail de collation et de comparaison du texte dans cet état différent, dans cette édition différente, qui fonde le travail de Pope, les 97 corrections, qui sont classées par lui par des rubriques marginales selon leur genre de correction. Erreur de ponctuation, faute typographique, passage omis, conjecture, correction. Donc une sorte à la fois d'importance différente du type de correction, depuis la ponctuation jusqu'à le texte lui-même, et d'autre part, une série de corrections qui peuvent évidemment mettre en question les erreurs des éditeurs du texte, mais aussi les fautes qui se sont introduites pas dans le processus de la composition typographique elle-même. Et le fait intéressant, c'est qu'à la fois Théobald se réfère aux éditions les plus anciennes, mais en même temps ne néglige pas pour autant des éditions récentes, comme celle de Hughes de 1723, parce qu'il considère évidemment qu'il y a aussi une capitalisation de certaines corrections qui a pu être faite au cours de ce processus de transmission textuelle qu'il juge globalement comme répétant les erreurs. Mais néanmoins, comme les textes varient les uns des autres, et c'est parce qu'à un moment donné ont été introduites certaines émendations ou connexions, ou corrections. Et donc, du coup, il propose ces 97 corrections à l'édition de 1725. Et pour montrer sa compétence et pour se poser comme un éditeur possible et désirable de Shakespeare, il ajoute en appendice du livre, après cette « Examination and Correction of the Tragedy of Hamlet », il ajoute un échantillon de 107 autres corrections similaires dans différentes pièces de Shakespeare. C'est une manière pour lui de réaffirmer une méthode qui fonde les conjectures sur le savoir, savoir technique, savoir classique, savoir bibliographique, savoir philologique, mais qui est aussi pour lui une manière de dire qu'il a déjà entamé une édition possible de Shakespeare. Et si Thomson, qui dispose du copyright sur les œuvres de Shakespeare, en est convaincu, Théobald est tout prêt à transformer son Shakespeare Restored en une nouvelle édition des Works of William Shakespeare. Ça, c'est le deuxième enjeu autour de Shakespeare et la raison de ce texte de Théobald, Shakespeare Restored. On est dans un moment où j'ai simplifié par l'opposition entre Pope et Théobald, mais où effectivement le retour au texte shakespearien au début du XVIIIe siècle immédiatement pose cette question du critère majeur utilisé dans une pratique éditoriale, le critère du jugement de goût ou le critère des savoirs bibliographiques, philologiques et linguistiques. Mais il y a plus, et c'est un contexte pour la représentation de 1728 de Double Falsehood, c'est l'appropriation de Shakespeare comme un enjeu politique dans le début du XVIIIe siècle anglais, avec cette construction du poète comme le poète national par excellence et comme l'incarnation dans ses textes de l'identité anglaise, vertu, patriotisme, goût, et comme je le disais, contre ce qui est perçu par certains comme la décadence du spectacle, avec la mode des opéras étrangers, avec la mode des pantomimes, et ce qui est perçu aussi comme une corruption des mœurs. Cette vision d'un Shakespeare qui est l'incarnation de l'identité, de la vertu et du nationalisme anglais est particulièrement forte dans le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire le parti Whig, et dans le gouvernement de Walpole. Et une opposition à ce parti Whig est celle dont Pope est très proche, c'est-à-dire celle du parti jacobite qui reste fidèle au Stuart de Bolingbroke. Et la lutte entre ces deux factions ou deux partis politiques est la toile de fond de la récupération, d'une manière ou d'une autre, de Shakespeare. Et la récupération Whig, c'est-à-dire celle qui fait de Shakespeare ce ciment, cette expression, cette incarnation de l'identité anglaise, elle est une des réceptions de la pièce de 1727, Double Falsehood. Dans le Weekly Journal or British Gazetteer du 10 février 1728, un critique qui utilise le pseudonyme de Dramaticus, en fait il s'appelle Sir William Young, revient sur les représentations, pas seulement la première de décembre, mais toutes celles qui ont suivi jusqu'en février, de Double Falsehood. Et son commentaire situe la pièce de Theobald dans cette appropriation de Shakespeare à la fois politique et morale. La ville, the town, s'est trouvée réveillée de son efféminement et de ses délires, effeminacy and infatuation, et sommée, au risque de perdre toute prétention au bon sens dans le futur, d'obéir au nom fameux, celebrated name, Shakespeare, qui la convoque au théâtre. Grâce aux applaudissements unanimes avec lesquels la pièce a été accueillie par des publics considérables durant 10 soirées, les véritables amis du théâtre ont eu la satisfaction de voir l'auteur restauré dans sa juste possession de la scène, donc Shakespeare restauré dans la possession du théâtre, l'auteur restauré dans sa juste possession de la scène, dont ses œuvres ont été un tel ornement et une telle source de revenus durant sa vie, et la scène qui les a reçus aujourd'hui comme un héritage inestimable après sa mort. On voit qu'il y a là ce jeu sur ce dédoublement de l'attribution autoriale, puisque Théobald n'apparaît pas. C'est Shakespeare qui est là donné sur la scène, c'est Shakespeare qui est restauré, comme dans le livre de Théobald. Mais en même temps, s'il est restauré, s'il est présent sur la scène, c'est grâce au second auteur, c'est-à-dire Théobald, et c'est grâce aussi au directeur du Theatre Royal, je cite le Dramaticus, « Ils ont courageusement montré leur détermination à rédimer en même temps que leur propre crédit le sens commun et la dignité de leur public, en les invitant à retrouver le goût ancien, noble et raisonnable, avec de telles représentations qui sont les seules capables de refléter avec honneur l'attention du peuple britannique, British people. » Donc on voit qu'il y a à la fois cette présence de Shakespeare qui retrouve la scène, et cela avait commencé depuis le début du XVIIIe siècle, un collègue anglais qui est en train de préparer une édition moderne de Double Falsehood, Brian Hammond, a montré comment le fantôme de Shakespeare, mais au sens littéral, un fantôme qui apparaît sur la scène, apparaît dans des prologues de pièces dès les années 1710-1720. Donc il y a une récupération politique, une résurrection de Shakespeare, et qui correspond avec cet honneur du British people, donc une récupération nationaliste et morale et politique. Et en même temps, évidemment, les conditions de possibilité de cette restauration, c'est-à-dire la révision et l'adaptation de Théobald, et d'autre part, les décisions des directeurs de théâtre de représenter des pièces, entre guillemets, shakespeariennes, adaptées par des auteurs, des dramaturges contemporains. Je reviendrai sur cette tension entre l'ambivalence du concept de restauration, puisque vous voyez, quand Théobald l'emploie dans Shakespeare Restored, c'est pour aller au texte authentique, au texte original, tel qu'il imagine ou suppose ou démontre que Shakespeare l'a écrit. Et lorsque Dramaticus emploie ce texte pour désigner la représentation d'une pièce comme Double Falsehood. Évidemment, c'est une restauration d'un tout autre type, puisque un des thèmes de cette cours, ce sera de montrer en comment, en quelle mesure Double Falsehood est une réécriture, comme toutes les autres adaptations des pièces shakespeariennes ou élisabéthaines, telles qu'elles ont pu être données à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il y a donc là une ambivalence, une ambiguïté autour de qu'est-ce que c'est que restaurer Shakespeare, et peut-être une différence fondamentale entre le restaurer pour la lecture d'une édition et le restaurer pour la représentation sur une scène de théâtre. Mais j'aimerais maintenant, bon, je vais peut-être continuer, puisque comme on a eu cette interruption malencontreuse, sauf si, bon, il y a une demande pressante, je vais continuer cet exposé, faire un retour en arrière sur Lewis Theobald. Jusqu'alors, on l'a traité à travers le fait qu'il a révisé et adapté une pièce perdue de Shakespeare, et que d'autre part, on l'a traité comme celui qui, en 1726, s'était posé comme l'éditeur qui pouvait prendre en charge une édition savante, érudite, historique de Shakespeare. Mais la personnalité déborde cette double présentation dans la mesure où la carrière de Theobald est assez exemplaire d'une carrière de lettres au début du XVIIIe siècle, une carrière qui est toujours marquée par deux traits. L'un, sa familiarité avec l'œuvre de Shakespeare, avant même, bien avant la Shakespeare Restored, de 1726 ou Double Falsehood de 1727, et d'autre part avec ses liens toujours forts avec le parti Whig. Ses patrons, ses protecteurs appartiennent à cette faction politique attachée à cette idée de la restauration des vertus et des valeurs esthétiques ou morales du British people. Theobald est né la même année que Pope en 1688. Il est le fils d'un procureur, il a été protégé par divers aristocrates lors de ses études classiques, comme je le disais, mais qui n'ont jamais, semble-t-il, l'ont jamais conduit à l'université, mais qui néanmoins lui ont donné une maîtrise du grec et du latin. Et il a fait le choix, au tout début du XVIIIe siècle, alors qu'il a un diplôme, une profession d'avocat, il a fait le choix d'une carrière d'homme de lettres professionnelle à Londres. C'est un moment clé dans lequel émerge cette idée qu'il est possible de vivre de sa plume. Donc une professionnalisation de la carrière de l'homme de lettres. Situation rare au XVIIe et au XVIe siècle, dans lesquelles la condition d'homme de lettres est liée soit au fait de disposer d'un patrimoine personnel, ou d'un office, ou d'un bénéfice, ou bien est lié directement aux liens qui sont ceux du mécénat et de la clientèle. Au début du XVIIIe siècle, sans doute avec l'ouverture du marché du livre, avec la multiplication des genres qui requièrent des plumes, naît l'idée d'une possibilité difficile d'une carrière professionnelle d'homme de lettres. Et dans les premières années après ce choix, c'est-à-dire les années de 1710, Lewis Theobald démontre la difficulté de cette option par la multiplication ou la multiplicité des genres dans lesquels il écrit, en espérant soit des revenus immédiats financiers, soit d'attirer l'attention d'un protecteur, d'un patron, et en particulier l'attention de l'establishment politique et littéraire du parti Whig. Le premier de ces genres, ce sont les traductions, et qui nous référerait à une réalité plus ancienne, puisque au XVIe ou XVIIe siècle, ce sont les traducteurs qui, les premiers, ont reçu, en paiement de leur œuvre, des revenus monétaires. Et ce sont les premiers, et pas seulement des exemplaires du livre, qui leur permettaient de l'offrir à des patrons déjà conquis ou qu'il recherchait. Donc des paiements en monétaire pour la traduction, et en même temps dans les contrats, la première apparition de formes modernes des contrats, c'est-à-dire par exemple des avances, avant même la remise du manuscrit. Et donc la professionnalisation des lettres a commencé avec les traducteurs dès le XVIe siècle et perdurera au XVIIIe siècle comme une des premières activités recherchées pour assurer des revenus lorsqu'on n'a ni bénéfice, ni office, ni patron. C'est ce que fera Diderot, par exemple. Donc, dans le cas de Théobald, il traduit du grec, le premier livre de l'Odyssée, deux pièces de Sophocle, Electra et Oedipus, King of Thebes, une pièce d'Aristophane, Les Nuées, The Clouds, et tout cela dans les années 1714-1716. Mais il traduit aussi, à partir du français, un ouvrage de Jean Leclerc, qui est un commentaire des voyages d'Addison en Italie, et un ouvrage de M. de Lamotte, qui est un commentaire sur l'Iliade. Donc il y a une première activité, qui est une activité de traducteur. Une deuxième recherche, aussi portée par le temps, c'est le journal. Et Théobald, en 1715, alors qu'il est encore très jeune, puisqu'il est né en 1688, lance un journal littéraire appelé The Censor, le censeur, qui va connaître les difficultés de la presse au début du XVIIIe siècle, ou des journaux du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une interruption dans la publication et finalement une disparition précoce. Les numéros du Censor sont publiés entre avril et juin 1715, puis il y a une interruption, reprise entre janvier et mai 1717, et finalement une disparition définitive. Et sans doute parce que l'espace de cette presse littéraire était déjà occupé à Londres et occupé par la figure dominante du Spectator d'Addison et Steele. Mais néanmoins, ces numéros du Censor, où Théobald est l'auteur en même temps que l'éditeur du périodique, sont intéressants parce qu'il y développe des articles de critique littéraire, en particulier une série d'articles sur Shakespeare. Troisième type d'écriture dont il espère des revenus, c'est le théâtre. La première pièce qu'il est représentée est une pièce de 1707, donc il n'y a même pas 30 ans, The Persian Princess. Et puis en 1716, une pièce appelée Le Frère Perfide, The Perfidious Brother, et qui va marquer un peu la carrière de Théobald, mais pas dans le meilleur sens, parce qu'il est accusé de plagiat par un fabricant de montres, mais qui était aussi un dramaturge amateur, et qui lui aurait confié un manuscrit d'une de ses pièces, qui aurait été en fait plagié dans The Perfidious Brother par Théobald. Donc, va s'attacher à lui cette réputation mauvaise qui va jouer un rôle dans la controverse autour de Double Falsehood, l'idée qu'il peut être un faussaire. Et donc, il a dans ce cas-là un plagiaire. Mais néanmoins, cette pièce, malgré l'accusation de plagiat qui lui est lancée, va ouvrir une collaboration avec le directeur de l'autre théâtre, pas celui où va être représenté plus tard, Double Falsehood, mais le Lincoln's Inn Fields Theatre, et son directeur qui s'appelle John Rich. Et pour ce théâtre, Théobald va produire les genres à la mode. C'est-à-dire qu'il va écrire plusieurs livrets d'opéra, en particulier des opéras en un acte, ou des opéras qui reprennent en charge avec la musique et les paroles l'ancienne formule des masques du théâtre élisabétain et jacobéen. Et puis, il va composer plusieurs pantomimes entre 1725 et 27, qui sont comme des spectacles à la mode, parce que ce sont des spectacles totaux avec la danse, le chant, le mime, des machines. Il écrit ainsi un Harlequin as a Sorcerer, Harlequin comme sorcier, Apollo and Daphne, ou The Rape of Proserpine, le viol de Proserpine. Il y a là une double production qui est justement celle qui va devenir la cible, et de lui-même dans un sens, lorsque la restauration de Shakespeare est pensée comme une manière de supprimer ce qu'on trouve dans certains textes comme l'expression de la prostitution de la scène à des genres étrangers ou à des genres vulgaires. Et donc, si la contradiction entre Théobald comme auteur de pantomime ou d'opéra en un acte pour vivre, et d'autre part, cette condamnation qui va être liée à sa volonté de restaurer d'une manière ou d'une autre Shakespeare, est tout à fait patente. Ce qui reste important dans cette expérience, et que les autres éditeurs de Shakespeare n'avaient pas, c'est ce que je mentionnais, c'est-à-dire une connaissance des manuscrits de théâtre qui finalement n'ont pas changé si radicalement entre le XVIe et XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Ce que l'on appelle en anglais « the prompt book » et qui est le manuscrit, évidemment pas d'auteur, mais copié par un copiste professionnel qui sert à l'organisation de la représentation. C'est le manuscrit où sont marquées les entrées, les sorties, les changements de décor, le moment où la musique doit être jouée, etc. Donc, cette familiarité avec les prompt books de son temps lui permettait parfois de déduire des erreurs à l'intérieur des éditions qui étaient fondées sur une méconnaissance par les éditeurs, par exemple Pope, de ce qu'était un prompt book. Un trait, par exemple, fondamental est que lorsqu'il y a indiqué dans un prompt book les entrées des personnages, elles sont indiquées en face de lignes qui ne correspondent pas à cette entrée, puisqu'elles sont des warning entries, elles sont marquées pour que les acteurs, les comédiens qui jouent les rôles des personnages qui vont entrer sur la scène soient prévenus. Donc elles sont toujours décalées chronologiquement et antérieure au moment où ils apparaissent sur la scène. Et la même chose pour les transformations du décor ou l'apport des accessoires. C'est une de ces connaissances techniques que, quelquefois, dans les notes sur Hamlet, il va mettre enfin les corrections de l'Hamlet de Pope, il met en jeu. Et il y a aussi une autre correction qui est lié là à la fois à son expérience du théâtre et sa connaissance des écritures anciennes, c'est-à-dire d'inférer un certain nombre de corrections, d'erreurs de lecture des compositeurs typographes par rapport aux manuscrits dont ils disposaient, et ces manuscrits au XVIe, XVIIe étant écrits dans la secretary hand, une écriture professionnelle des scribes professionnels ou des scribes des chancelleries ou des tribunaux, et que Théobald connaissait et pouvait inférer la restitution d'un certain nombre de mots à partir de l'hypothèse des déformations de lecture des compositeurs typographes par rapport à cette écriture de la secretary hand. Donc il y a là une expérience de théâtre qui est importante et qui, j'y reviendrai, est d'autant plus importante que si Shakespeare était déjà présent dans les pages des critiques du Censor, Shakespeare est aussi présent dans cette activité d'écriture de théâtre, puisqu'en 1719, Théobald va faire adapter et sera représenté un Richard II avec comme sous-titre « Altered from Shakespeare », transformé à partir de Shakespeare. Et c'est un exemple fondamental de cette appropriation d'un texte ancien, qui lui existe, le Richard II de Shakespeare, pour une adaptation théâtrale du début du XVIIIe siècle. Et pour le projet du cours, c'est évidemment, en fait, cette recherche, c'est évidemment un point important, parce que si l'on admet que Double Falsehood est une adaptation de Une pièce perdue, qu'on va dire être Cardenio, mais qui donc la comparaison n'est pas possible. Dans le cas de Richard II, les procédures d'une appropriation, d'une adaptation, d'une altération sont évidemment déchiffrables, puisqu'on peut comparer terme à terme les deux textes, celui de Shakespeare et celui de Théobald. Quatrième genre, la poésie, ici avec des poésies qui ont pour but de conquérir des patrons, des poésies de circonstances pour attirer la protection du dédicataire. Dans les années 1710, il le fait avec le comte d'Orrery, avec la duchesse d'Ormond. Et en 1715, autre très shakespearien, donc qui accompagne aussi sa production poétique, il publie The Cave of Poverty, la caverne de la pauvreté, et qui est présenté comme Written in Imitation of Shakespeare. Dans ce cas-là, une imitation libre du Venus and Adonis, le poème, un des premiers poèmes publiés de Shakespeare avec le viol de Lucrèce. Donc on voit qu'il y a deux constantes dans cette carrière d'homme de lettres que je restitue à gros traits. D'un côté, cette proximité permanente avec Shakespeare, imité dans la poésie, discuté dans le censeur, en particulier que Théobald est un des premiers critiques à comparer le roi Lear avec la chronique de Holinshed qui a inspiré Shakespeare, et donc de mener une comparaison entre un traitement de l'histoire dans la chronique et sa réélaboration dramatique dans le King Lear, ou bien encore une défense d'Othello, qui paraissait une pièce barbare, cruelle, violente, dans un numéro de janvier 1717, dont Shakespeare imitait dans The Cave of Poverty, Shakespeare discuté dans le Censor, et Shakespeare adapté avec ce Richard II de 1719, ce qui conduit évidemment à ce Shakespeare édité, corrigé de Shakespeare Restored de 1726. Et la deuxième constante, c'est la proximité avec le parti Whig. En 1713, Théobald publie une vie de Caton d'Utique, qui était devenu un héros du parti Whig, parce qu'il incarnait, en se suicidant pour ne pas tomber sous la tyrannie de César, la résistance à la tyrannie. En même temps, la même année ou l'année suivante, Théobald publie une traduction du dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme, qui était le livre supposément lu par Caton d'Utique durant la nuit qui précédait son suicide. Donc choisir la figure de Caton pour en écrire la vie, et choisir le texte de Platon lu par Caton et qui s'insérait dans cette éthique de la résistance à la tyrannie et au despotisme, thème mis en avant par le parti Whig contre le parti des Stuarts, était une manière d'engagement politique de Théobald. Et un deuxième trait de ces liens forts avec le parti Whig est son amitié avec Philippe Froude, qui est un personnage important de la coterie politico-littéraire des Whigs, et avec un échange de bons procédés avec Théobald. En 1727, Théobald avait écrit un prologue pour une pièce de Froude qui s'appelle « La chute de Sagonte », c'est-à-dire la résistance de la ville de Sagonte à Hannibal, et qui établissait évidemment un parallèle entre les vertus du British people et les vertus des courageux sagontiens. Et en échange de bons procédés, en 1728, c'est Philip Froude qui écrit un prologue pour The Double Falsehood, le genre étant qu'avant la représentation, un prologue est déclamé, qui semble, d'après les journaux, attendu, parce que c'est un exercice de déclamation dramatique qui peut faire briller un comédien. Mais c'est des prologues, à la différence des prologues shakespeariens, où il y a un rapport entre le contenu du prologue et la pièce, ici, c'est plutôt une captatio benevolentiae, une louange des souverains, et avec un rapport plus distant avec l'intrigue de la pièce. Et dans ce prologue, de 1728, Philip Froude a établi un parallèle, cette fois-ci, entre le roi George II et Auguste. Quand le grand Auguste est sur le trône britannique et que son épouse chérie fait sienne les muses, comme il, c'est-à-dire Shakespeare, serait enchanté de voir le juste droit du mérite être reconnu par la renaissance de sa propre renommée. Donc une adresse d'un Shakespeare qui revient et qui est frappé par le fait que c'est un Auguste qui maintenant est souverain d'Angleterre, un protecteur des arts, des lettres, et qui du coup est celui qui est le garant de cette reconnaissance du mérite qui s'identifie avec la restauration, la renaissance de Shakespeare. Et ce prologue a plu beaucoup à la presse pro-gouvernementale et il est, le 23 décembre, publié sur la page de titre, sur la première page du London Journal. On voit donc que la pièce de Double Falsehood doit être replacée dans le contexte des affrontements politiques dans lesquels l'appropriation, la revendication de Shakespeare tiennent un rôle essentiel. Et Theobald est sans doute un des auteurs les mieux placés pour se situer dans ce contexte, puisque d'un côté, il a une fidélité qui s'est très tôt établie avec le parti Whig, et d'un autre côté, il a cette permanente présence de Shakespeare dans toutes les formes, tous les moments, toutes les pratiques qui ont caractérisé sa trajectoire d'homme de lettres en recherche d'une professionnalisation. Alors, pour finir cette conférence aujourd'hui, revenir sur cette question de la relation entre Théobald et Shakespeare. Parce que là aussi, au-delà du cas particulier, elle illustre un trait que certains des critiques shakespeariens contemporains, comme David Scott Caston, ont montré et ont qualifié de relation schizophrénique des éditeurs du XVIIIe siècle avec Shakespeare. Schizophrénique parce que d'un côté, il y a cette volonté de restaurer les textes corrompus.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.